Il est 15h et c'est l'heure de l'émission des lecteurs sous les toits.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des lecteurs sous les toits sur Fréquence Mistral. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvain Prudhomme, qui est l'auteur en résidence à Manosque et qui est déjà venu à cette antenne pour les correspondances.
Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde.
Donc à côté de moi, j'ai Chantal et Nathanaël. Et donc Sylvain, aujourd'hui, donc nous l'avons déjà reçu deux fois aux apéros du comité de lecture pendant les correspondances. Alors il y a 2 ans pour l'Ave di Bailly, où le narrateur revenait sur les traces de son grand-père en Algérie, son grand-père qui était colon. Et cette année, nous l'avons reçu pour Les Grands, l'histoire d'un célèbre groupe de musique de Guinée-Bissau, les Super Mama Jumbo, et ce qui nous permettait d'aller dans la Guinée des années 70 à nos jours, sur les fonds de guérilla, de guerre civile. Ces deux romans sont parus dans la collection L'Arbalète chez Gallimard. Et comme nous avons beaucoup déjà parlé des livres de Sylvain au comité de lecture, aux apéros littéraires et même sur cette radio, aujourd'hui il va se livrer à un autre exercice. Il va venir nous parler de... Enfin, il n'est pas venu, il est là. Il va nous parler de sa bibliothèque, enfin de livres de littérature contemporaine qu'il a beaucoup apprécié.
Voilà, exactement. L'idée était de... Oui, on s'est dit que c'était ça changeait un petit peu, plutôt que de parler à nouveau de mes livres. C'était l'occasion peut-être d'essayer de faire découvrir des livres que peut-être certains auditeurs ne connaissent pas. Et moi, j'ai essayé de prendre des livres qui, chaque fois, étaient parus après 2000, enfin, donc des livres du 21e siècle même.
Ouais.
Et donc, c'est pas à proprement parler une bibliothèque idéale, parce que dans ma bibliothèque idéale, il y a beaucoup de livres de plein de siècles précédents. Et il y avait une autre contrainte, c'était d'essayer de parler de livres dont il n'avait pas été trop question pendant les précédentes éditions des correspondances. Comme il y a beaucoup d'auteurs qui sont venus, on a essayé d'en prendre qui n'étaient pas trop venus, mais c'est une tâche difficile parce que il y a un tel travail fait par les correspondances que ça va, c'est pas facile. Mais voilà, donc il y a une petite liste de 6 livres dont on a parlé mardi
comité de lecture, ouais.
Est-ce que je les énumère maintenant?
Ouais. Vas-y, oui. Oui,
oui, ça permet effectivement de.
Alors,
rebondir.
Peut-être je dis tous les titres là,
voilà,
et après
on parle. Oui,
on va revenir tout doucement sur chacun d'entre eux. Donc il y a Frédéric Sirier, un livre merveilleux qui s'appelle Mélo, chez Vertical, qui est paru en 2013. Ensuite il y a Édouard Levé. Je me contente d'énumérer les titres là dans un premier temps. Édouard Levé, c'est presque un classique maintenant, mais donc Édouard Levé qui malheureusement est mort il y a quelques années. Mais donc moi j'ai choisi son texte Autoportrait, qui est en poche aux éditions POL. Ensuite il y a le livre de Marcel Cohen, le très beau livre de Marcel Cohen sur la scène intérieure, qui est pas un livre inconnu, loin de là, parce qu'il a même reçu le prix Vepler en 2013. Donc voilà, qui est chez Gallimard dans la collection L'un et l'autre. Un livre du Sénégal où j'ai vécu et que j'aime énormément, de Ken Bougoul, une auteure qui a une soixantaine d'années. Ken Bougoul, le livre s'appelle Riwan ou le chemin de sable. C'est aux éditions Présence africaine. Ensuite, un livre qui a des résonances toutes particulières. Dans la région, comme ça, des Alpes de Haute-Provence, enfin, où on sait bien ce que c'est que les troupeaux. Donc, un livre qui s'appelle Estive, aux éditions Zoé, de Blaise Hoffmann. Et enfin, bon, ça c'est pour le plaisir, mais on s'en lasse pas. Je pense que peut-être certains éditeurs le connaissent déjà bien, mais c'est Christophe Tarkos, un poète dont des lectures ont été faites aussi aux correspondances, mais qui est mort lui aussi malheureusement, très jeune. Et j'ai choisi le recueil Caisse. Caisse comme des caisses à outils, enfin voilà, aux éditions POL. Voilà, ça c'est les livres dont on va parler. Et je sais qu'on on va échanger
ensemble. Voilà. Peut-être lire quelques extraits aussi, voilà, parce que c'est significatif.
Ouais.
Voilà. Tu veux commencer par quel livre, Sylvain ?
On peut parler de on peut parler de Frédéric Sirier et de
Allez.
Et de Mello.
Vas-y, vas-y.
Je sais que tu l'as lu toi aussi, Sylvie.
Oui. Alors moi j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert grâce à toi.
D'accord.
Et ce que j'ai aimé, c'est cette rencontre entre en fait le livre est un triptyque.
Un triptyque, ouais, absolument. Ouais.
Voilà. Et avec trois personnages, donc dis-nous les personnages que parle-nous de ces personnages, et nous on pourra peut-être émailler par des illustrations de lecture.
Ouais. Alors c'est un livre qui se passe dans le Paris d'aujourd'hui, donc c'est un livre qui essaie de décrire un Paris, mais Paris un Paris qu'on connaît peu. Enfin voilà, délibérément il se passe dans trois milieux de Paris qu'on décrit presque jamais. Donc le premier, c'est un, alors ça commence assez tristement le livre. Tout se passe en un soir, hein, dans la ville. Et d'abord on retrouve le corps de quelqu'un qui vient malheureusement de se suicider dans sa voiture, et il est sur un parking dans une banlieue à Saint-Ouen. Et voilà, c'est bon, c'est la fin de sa trajectoire qui est racontée ensuite en repartant plus en arrière et en revenant jusqu'à l'instant du suicide. Donc ça c'est le premier triptyque, c'est quelqu'un qui est un homme en échec professionnel, en échec amoureux, dont la vie allait mal et qui décide d'y mettre un terme. Donc c'est la face un peu sombre c'est quelqu'un qui est broyé, qui était venu à Paris, qui est breton et qui était venu à Paris et qui se fait un peu broyer par la capitale, par la ville.
C'est un syndicaliste. Et
ouais,
il faut souligner que tout ce livre se passe le 30 avril, ouais. Veille du 1er mai, veille donc de fête du travail.
C'est fondamental.
Et c'est assez symbolique pour cet homme qui va se suicider le jour de la fête, enfin la veille de la fête du travail.
Et ça, évidemment, du coup, sa mort en prend une des couleurs. Enfin voilà, ça ressemble beaucoup à la fin de beaucoup d'illusions, enfin en tout cas d'espérance, le naufrage de tout ça, avec cet homme qui se, et en plus son bureau de syndicaliste et ou son appartement est tout près d'une agence de mannequins, d'une agence élite.
Dans le même
immeuble. Donc chaque fois qu'il rentre chez lui, il passe à l'étage inférieur où il y a des femmes qui sont en train
Superbe.
De se maquiller, qui sont là, et ça lui fait à chaque fois, il fait quelques tentatives d'approche, mais qui échoue lamentablement, et donc ça le renvoie sans cesse plus à sa solitude, à sa vie un peu ratée. Donc ça, évidemment, c'est assez dur ce premier chapitre. Et moi, ce que j'aime infiniment dans ce livre, c'est le deuxième chapitre, qui est une espèce de l'envers euphorique en quelque sorte de la première vie. Ces deux hommes, c'est un homme qui connaît le premier, qu'il a rencontré, et ils échangent des textos, ils se retrouvent de temps en temps, mais il est d'un tout autre milieu social. C'est un Congolais qui lui est la journée conduit un camion poubelle dans le 10e arrondissement, et le soir est ce qu'on appelle un sapeur. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la sape, c'est pas un sapeur pompier, c'est un sapeur congolais, et la sape, SAPE, donc ça évidemment ça fait allusion aux vêtements, au fait de s'habiller très très bien, très très chic, et c'est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Et donc ce Congolais lui est absolument flamboyant et tout le contraire du syndicaliste qu'on a vu avant. Et voilà, comment dire, il est un espèce de, je pense que moi ce que je ressens en lisant le livre, c'est que Frédéric Sirier essaie de nous montre à l'instant où une vie s'éteint, se termine, toute la vitalité qui reste à d'autres endroits de la capitale, et le livre est comme ça, en forme de, suit un mouvement de grand réveil comme ça, vers l'euphorie. Après ce premier chapitre, en fait, on voit qu'au même moment, et ils échangent des textos d'ailleurs, l'homme qui vient de mourir continue de recevoir sur son portable qui n'est pas éteint, des textos du Congolais qui lui dit, le Congolais s'appelle Parfait de Paris. Perfect from Paris. Et donc c'est la star de la nuit, des nuits congolaises, de la nuit parisienne tout entière. Et il essaie de retrouver son copain qui est là, c'est déjà mort.
Et on voit sa poitrine qui s'éclaire avec les textos qui apparaissent. Ouais. Et lui, il est déjà mort.
Ouais, c'est très triste et très, très beau. C'est vrai que ce détail est très fort. Ouais. Et donc voilà. Et le troisième personnage, c'est peut-être que tu peux.
Alors le troisième personnage, c'est une jeune chinoise lesbienne qui, pour financer ses études de marketing, vend des produits, des colifichets, des petits gadgets aux touristes dans les quartiers de la capitale. Et elle fait ça sur des rollers. Donc elle gagne beaucoup d'argent en vendant ces petites bricoles, ces petites babioles. Et le lien qui l'unit avec Parfait, c'est qu'elle lui vend un briquet en forme de rouge à lèvres où apparaît une femme. Enfin,
une femme nue en le retournant. Oui, pardon, voilà, Nathanaël.
Oui, une femme nue, mais dans la neige, et qu'il décide de nommer Anastasia.
Anastasia, et donc il parle à Anastasia en même temps qu'il conduit son camion poubelle, et il lui promet qu'ils vont passer une belle nuit. Mais donc c'est vrai que c'est un lien très ténu entre les personnages, et l'idée, je crois, est d'essayer de faire courir comme ça un fil à travers Paris et de décrire trois trajectoires le même soir. Qui sont reliés par en fait très peu de choses, mais on a le sentiment que par ce genre de lien, de un petit briquet, une chose vendue, un objet échangé, on pourrait tisser une toile qui unirait presque tous les habitants de Paris, en fait, et il y a ce travail qui est esquissé un peu de
c'est plein d'humour, c'est vraiment c'est très chouette. Est-ce qu'on peut vous en lire, est-ce qu'on peut lire quelques extraits?
Ouais, peut-être.
Alors, on va d'abord vous lire un passage concernant Parfait. Alors, il conduit le camion Ben. C'est la fin de la tournée et il est dans le camion avec ses deux collègues qui, eux, sont simples éboueurs.
On roule en silence, épuisé par la tournée. Bébert et Sidney sont assis à mes côtés. Ils ont enlevé leurs gants et puent un mélange de transpiration, de plastique et de crasse. Leurs nez estropiés par des kilomètres d'ordures sont incapables de se remonter le moral en captant les effluves subtiles d'Antéus qui danse sur ma nuque.
« J'ai faim, » dit Berbère. « Ce soir, je suis invitée à manger un couscous chez des amis. »
Il dit ça, mais je sais que c'est faux. Il ne voit personne à part les piliers du comptoir, du Joudoura, un café en bas de chez lui, porte de Pantin.
« Sinon, dis-moi, on est en équipe avec toi la semaine prochaine ?»«
Je ne sais pas, j'ai pas regardé le planning. »
Il faut plus que tu démarres aussi vite. Un jour, je vais me faire mal. J'ai eu de la chance tout à l'heure.
T'inquiète pas, je ferai plus attention la prochaine fois. Mais je ne sais pas si c'est moi qui démarre trop vite ou toi qui travaille trop lentement.
Il ne réplique pas. Sa combinaison est tachée de sang comme un tablier de boucher ou une peau de zébu ensanglantée du peintre de Nairobi, Jackson Pollock II. Il est vraiment temps qu'il rentre chez lui.
Qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Me demande Sidney.
Oh rien, je vais me coucher tôt. Demain, j'aide un ami qui vend du muguet.
Ah bon? Tu n'as rien prévu une veille de jour férié? Ça m'étonne d'un frimeur comme toi.
Et toi, tu défiles demain?
Rien à foutre du 1er mai. Ce soir, je vais danser.
Eh ben, danse bien.
Puis on se dit plus rien. On se dit plus rien parce qu'on n'a rien à se dire et aussi parce qu'on n'a rien envie de se dire. Et moi, ça me va. Je méprise les Maliens et les Sénégalais qui m'ont toujours pris pour un sale petit condogolais qui marche sur leur plate-bande. Mais la différence entre eux et moi, c'est que moi, j'ai progressé et qu'aujourd'hui, je conduis le camion, tandis qu'eux, ils sont toujours derrière à faire les rippers. Bébert me fait pitié, il n'a plus l'âge de faire la poubelle. Je lui dis
« Salut Bébert, repose-toi bien et profite du 1er mai, c'est gratuit !»
Et je le vois filer dans la bouche du métro, gare de l'Est, à côté d'une brasserie alsacienne, déserte, avec sous le bras le butin de la journée, caché sous le châssis du camion. Sidney descend lui aussi.
Ligne 7, terminus La Courneuve. Je sais où il habite. Ce n'est pas très reluisant. Il est content que ce soit moi qui aille vider tout seul et qui ramène le camion au dépôt. Ce lui fait gagner deux bonnes heures pour sortir en discothèque. Je sais où il va. Le Baobab, à Aubervilliers. La honte. Il doit se dire, parfait, une bonne poire. Mais il ne sait pas qu'au fond de mon cœur, c'est moi qui suis soulagée de me retrouver seule avec moi-même pour me préparer psychologiquement à la nuit qui s'annonce magique. Et je réalise en le voyant disparaître avec Bébert qu'il m'a dit « salut » du bout des lèvres, comme si ça lui coûtait un salaire. Mais je m'en moque. Il doit embrasser une femme tous les 10 ans et n'a dans la vie que des détritus, la masturbation et des fringues ordinaires. Voilà, ça c'était le passage concernant Parfait. Oui.
Oui.
Et alors, il y a un autre passage où il va quitter ses habits de travail pour ses habits de lumière.
Et alors, soirée... quels habits de lumière ?
Ah oui, une soirée triomphale l'attend.
Je passe un slip boxer harlequin jaune et vert.
Une chemise de soie jaune électrique.
Mes boutons de manchette en argent massif gravés PNP.
Une cravate courte en lézard argenté.
Un pantalon cigarette jaune électrique.
Une ceinture en lézard argenté.
J'enfile des chaussettes rayées ultra fines en strass tricolore jaune, argent et vert qui rappellent ma palette chromatique. Avant de chausser, mes berlutis guerriers pailletés argent.
Mon torse accueille un blazer, deux boutons, trois poches de biais en croco vert électrique et coude jaune.
Sur la poche poitrine flotte façon bandana une pochette de soie argent.
Dans la poche intérieure se cache un fume-cigarette et un étui en ébène contenant vin de Nil international et aussi un cigarette cubain de la maison Punch, modèle Punch Punch.
Mes doigts se couvrent d'un mélange minéral africain de bagues d'ambre et d'émeraude.
Mes deux chevalières en or gravé PNP distinguent mes annulaires.
Mon bazenville en croco jaune dissimule mon nécessaire de parure.
Mes yeux cruels reçoivent mes Ray-Ban pilos vert chlorophylle. Ma main terrible, une canne télescopique à pommeau d'argent gueule de lion.
Une tenue de rechange inédite m'attend en cas de contestation de mon originalité.
Le réglage est terminé, mon harmonie se révèle.
Je suis la synthèse du chic bourgeois, du dandysme excentrique et du matuvisme spectaculaire.
Je suis la magnificence du code couleur éboueur.
Je suis l'élégance d'outre-social.
Je vais mordre et être très méchant.
Je suis parfait de Paris.
On klaxonne en bas, je tremble, j'ai peur.
Alors, voilà, vous avez sélectionné aussi le passage qui on avait trouvé absolument délicieux, parce que qui klaxonne en bas ?
Elle m'attend, en double file devant l'hôtel des bons amis, devant ce taudis lugubre qui doit avoir la lèpre, la malaria et le typhus. Elle est pour moi là, inouïe. C'était mon rêve et il a eu lieu. Une Rolls-Royce. Si mon papa et ma maman me voyaient, si mes frères et sœurs me voyaient, si Bakongo me voyait... Il y a des locataires à la fenêtre qui assistent au spectacle. Je ne lève pas la tête, même si je les entends murmurer leur haine. J'aurai envie de les tuer plus tard. J'ai le temps. La vision de leur misère ne gâchera pas mon plaisir.
Je marche doucement, comme un prince du sang vers la fantôme d'Ophide, cabriolet gris métal à sellerie blanche que j'ai louée pour la nuit. Ah, le vent a tourné. Tous ces pauvres mal habillés n'osent plus m'insulter depuis leur étable et m'admirent enfin. Quand j'arrive à 2 mètres de la merveille et que grand frère Honoré sort habillé en chauffeur à casquette et qu'il me tient à la portière tandis que j'aperçois sur la calandre le Spirit of Actasy illuminé comme une femme de cristal.
On est des tueurs, Honoré.
Des assassins.
C'est pas une limousine pour les mariages de Chinois.
Ni pour les clips de rap.
C'est le carrosse du sapeur qui file vers son destin. Le pur luxe by Rolls-Royce. Un seul échantillon en France et c'est moi qui l'ai tonight.
Bravo.
Donc c'est vrai que c'est un personnage très... Ouais. D'ailleurs le chapitre s'appelle Transformation.
Oui voilà, c'est la mue, la mue ouais. De l'éboueur. Okay. Donc tout ça c'est Frédéric Sirier, un livre qui s'appelle Mélo et qu'on ne saurait trop vous recommander. Quoi,
ouais, vraiment. Ouais. C'est donc paru
chez Vertica.
Chez Vertical, oui.
C'est vraiment une lecture qu'on fait avec le sourire irrépressible à chaque fois.
Oui, oui, c'est euphorisant. Enfin,
ah oui, ouais. Oui, très...
Le premier chapitre est beaucoup moins comme
oui,
ça.
Oui, le premier chapitre.
Comme ça, ouais. Sylvain, quand même, beaucoup
et
moins...
C'est frappant, l'observation extrêmement détaillée. C'est presque à croire que les personnages sont de ses proches réellement.
Alors, Emmeline, comme elle savait qu'elle allait recevoir Sylvain Prudhomme, donc notre chère technicienne, elle avait sélectionné, voilà, une petite dédicace pour Sylvain, elle avait trouvé la musique des grands. Donc, la musique du Mama Jumbo.
Voilà, on va écouter Dissanambera.
Oh, Dissanambera, qui était effectivement la chanson un peu culte qui est passée, qui était presque un étendard pour toute l'Afrique. Après l'indépendance.
Ça fera une bonne pause musicale, ça fera du bien aussi.
On écoute.
Thank you.
Merci pour ce morceau. Et qu'effectivement, moi, j'adore. On entend la voix de Dulce Neves, cette voix très aiguë, là, très belle. Merci de cette surprise. Le second livre dont on va parler, c'est, je sais qu'il a beaucoup plu à Chantal, qui est là aussi et qui va en parler. C'est Estive de Blaise Hoffmann. Donc un livre qui est paru aux éditions Zoé, qui a eu un beau succès, qui a reçu le prix Nicolas Bouvier, je crois, en 2008.
Oui, ça s'explique.
Ouais, voilà, ça s'explique bien.
Mais c'est
ce qui est en soi est déjà assez intéressant, parce que le prix Nicolas Bouvier, c'est un prix qui récompense normalement les écrivains voyageurs, donc ceux qui partent au bout du monde, de raconter des contrées inexplorées. Enfin, évidemment, je dis tout ça avec un peu au second degré, parce qu'il y a plus grand monde, il y a plus grand chose qui soit inexploré. Mais là, ce qui se passe, c'est que c'est simplement un jeune homme suisse, enfin qui décide d'aller se frotter au métier de berger, et donc qui se retrouve à garder un troupeau de 1000 moutons. Et qui raconte ça, moi, ce qui m'a beaucoup touché, je trouve ce livre merveilleux d'humour, d'intelligence aussi dans la façon dont il décrit tout ça. Et sa construction aussi m'intéresse beaucoup, parce que il a pas fait du tout un livre pédagogique ou sur un traité du métier de berger, ou je sais pas, de toute façon il en avait pas les moyens, sans doute il est pas né dans ce métier là. Il a pas fait non plus un vrai journal de son été à garder les moutons. C'est une forme très très libre qui est faite de fragments comme ça, de réflexions qu'il fait, de constats, de notes, de notations, et qui reste très très, comment dire, à la fois il décrit ce métier assez fou qu'il essaie d'apprendre, et raconte un troupeau, une fois qu'on a réussi à le former, ça n'existe pas un troupeau, il faut le faire, il faut le créer de toutes pièces, et une fois qu'on l'a formé, qu'est-ce qu'il fait? Il se déforme. Donc il raconte le casse-tête que c'est de garder les moutons, chose insoupçonnée pour quelqu'un qui connaît pas tout ça, on pense que ça va de soi. Et aussi il intègre beaucoup à sa description de ce métier toute la modernité, la présence des touristes, le fait que les Alpes sont aussi un espèce de mythe de d'aimant à curieux de toutes sortes, de toutes nationalités, et voilà, où le plus moderne, l'ultra technologique côtoie l'ancestral. Donc Chantal, je pense, va nous en dire, va nous donner son sentiment sur ce livre.
J'ai envie de rajouter aussi, ça se passe en Suisse. C'est pas tout à fait n'importe où.
C'est vrai, bien sûr.
Donc c'est vrai qu'il découvre 1000 moutons d'un coup. Les premiers jours, il a un collègue qui est berger effectivement, et qui lui transmet un tout petit peu de son savoir. Sinon, il serait vite parti en courant, je pense. Et il donne des petites touches au fur et à mesure qui font état, d'une part, quand même, de son étonnement de découvrir ça, tous ces gestes techniques, c'est une science quand même de savoir soigner les bêtes, de savoir s'apercevoir, qu'il faut les garder, il faut pas en laisser 30 s'échapper et ne pas s'en être aperçu, qu'il faut aussi penser qu'il y a une nature qui peut être dangereuse, avec les falaises où ça peut tomber, qu'il faut aussi sympathiser avec les chiens, parce que c'est quand même eux qui aident le boulot du berger. Et puis, effectivement, de temps en temps, il raconte ce qu'il découvre aussi, pas seulement la technicité du métier, mais que la Suisse les utilise un petit peu, ces bergers, pour bien faire voir les Alpes suisses. Donc, il y a tout le côté touristique qui est vu, avec des gags pas possibles, du style un photographe polonais, dans mon souvenir, qui photographie de loin ce berger. Vas-y.
Oui, je crois que c'est le berger qui est polonais. Le berger est polonais,
parce qu'en fait, la Suisse a
besoin de bergers qui viennent de très loin parfois, parce qu'il n'y a plus beaucoup de Suisses qui veulent faire ce métier, donc c'est un Polonais qui garde, je crois, les...
Et puis un touriste d'une autre nationalité, que j'ai oublié, et qu'il prend en photo et est absolument persuadé d'avoir un gars du coin. Il n'y a pas de mystère. L'autochtone absolu.
Le berger suisse dans sa splendeur, et c'est un Polonais en fait, et ils ne peuvent même pas se parler parce que l'un est hollandais, je crois. Oui, voilà, il y a beaucoup de moments comme ça de...
Moi, j'aime beaucoup ces petites touches très, très réelles, finalement, et qui sont un petit peu ourlées régulièrement de pensées philosophiques sur ce que c'est. J'ai beaucoup aimé aussi parce qu'on est un département où il y a effectivement une des deux fameuses écoles françaises de berger, et où on est amené à rencontrer régulièrement des jeunes qui ont choisi cette formation-là, c'est des jeunes très très motivés qui sont pas en train de se demander qu'est-ce que je vais faire, oh je prends ce stage parce que j'ai rien d'autre à faire ou parce que j'y suis obligée, mais qui ont des orientations personnelles, une passion soit pour la nature, soit pour les animaux, soit pour la solitude, parce que c'est tout de même un aspect réel de ce métier-là. Et l'intérêt de ce qu'il décrit, c'est qu'il n'est pas vraiment de ce milieu. Du coup, il arrive à avoir un recul tout en ayant réellement assumé toute sa saison d'estive. Il ramène le troupeau entier, presque entier, et il a aussi découvert que c'est pas si simple, parce que les moutons, peut-être qu'il les aime bien, mais certains jours, il y en a marre. Quand même.
Oui, il le dit ça.
Il dit vraiment que c'est lourd, c'est pesant, et puis bon, leur parler, ça va bien un moment.
Et il en a même marre aussi des Alpes, enfin de comment dire, même il appelle ça la suicitude. à un moment, il s'agace un peu de participer la construction d'un immense cliché qui est une fabrication en fait sur les Alpes ancestrales vierges. Et il déconstruit tout ça avec un peu comme un jeu de massacre, enfin aussi avec
D'autant que c'est quand même très caricatural, ces pays qui veulent garder des troupeaux qu'il faut voir. Hein, ils sont isolés, mais il faut les voir. Mais ils disent surtout pas, d'abord, que c'est très mal payé, et puis que c'est des conditions de vie, 4 ou 5 mois, extrêmement rudes. Des jours, il n'y a plus tout à fait assez à manger, des jours, on crève de soif, des jours, le temps est tellement mauvais qu'on ne mettrait pas son nez dehors, mais ben, il faut bien l'obliger, il y en a 1000 qui t'attendent, pour mystère. Donc il y a quand même des ambiguïtés, je trouve. Alors quand je dis c'est en Suisse, c'est un gag monstrueux, parce que tout comme dans nos Alpes ici, il y a un problème avec certains animaux sauvages qu'on pourrait appeler le lynx ou le loup. Et la Suisse adore peut-être au moins autant que les Français les formulaires. Et il y a un passage absolument fabuleux sur tout ce qu'il faut faire au niveau légal quand on est confronté au passage du loup dans le troupeau. Article 1, article 2, article 3, article 5, article 6... Il y a tout ça à faire, puis après il faudra aller voir les administrations concernées pour enfin peut-être être dédommagé. Mais il avoue quand même que quand il y a vraiment le loup, basta, on fait tout tomber et on court derrière les moutons.
on jette la dépouille par-dessus dans le ravin et hop, on n'en parle plus. Oui, il y a la théorie, il y a la pratique.
Oui, c'est très très amusant, je trouve. Quand même.
Et tout ça est transcrit dans une langue très très belle, avec des mots très choisis. Souvent, des formules assez resserrées. Tu parlais tout à l'heure du côté un peu philosophique qu'il y a parfois. Et c'est vrai que moi, je me souviens d'un moment où il dit, c'est juste une phrase, il dit « écrire à haute voix le privilège des bergers ».
Ouais.
Il y a comme ça des notes à peine, qui sont profondes, enfin. Et ça fait évidemment beaucoup partie du plaisir de ce livre, sa langue magnifique. Et tout ce que raconte Chantal, on voit qu'il y a au moins autant d'aventures que s'il était allé à l'autre bout du monde. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin, en fait, souvent, pour être dans un récit de...
C'est une forme de tourisme, je pense.
Oui, une forme, en tout cas.
Si surprenant que ça puisse paraître, parce que ce n'est pas son métier.
Tout à fait,
oui. Et c'est vrai que c'est dur. Moi, je trouve ce livre très, très plaisant, parce que quand on le ferme, il est léger. C'est écrit sans prétention, mais très très léger, alors qu'il y a quelque chose de très très pesant dans le quotidien d'un berger. Et moi je le trouve très léger.
Oui, il se départit jamais d'un humour, d'une distance, même dans les moments où il est fatigué des moutons.
Et ben voilà, moi ce qui me tente, c'est que vous ayez envie de le lire.
Alors je rappelle peut-être juste le titre, donc c'est Estive, merveilleux livre qu'Estive de Blaise Hoffmann. Aux éditions Zoé.
Oui, il y a une couverture magnifique. C'est un triangle rouge qui, dans le code de la route français, indique qu'il y a un danger. Un triangle rouge et dans lequel il y a un mouton. Superbe.
Thank you.
on continue notre parcours comme ça de livres assez récents qui nous ont enthousiasmés. Celui dont on va parler maintenant, c'est Autoportrait d'Edouard Levé. Levé de bon matin. Edouard Levé, qui est un auteur un peu culte pour beaucoup de gens. C'est aussi un artiste conceptuel. C'est quelqu'un dont l'œuvre tout entière est assez fascinante et qui malheureusement est mort en 2007. S'est suicidé en 2007 après avoir remis à son éditeur un dernier manuscrit qui s'appelle Suicide justement et qui est paru depuis bien sûr. Là, c'est un livre un peu plus ancien. La date exacte, je ne sais plus, mais tant pis. 2005, pardon, voilà. 2005. Autoportrait. Donc, Édouard Levé, dans ce texte, s'attaque à un thème à une question qui a été traitée des centaines de fois et qui a donné lieu à de très grands livres. Donc, c'est pas facile d'essayer de faire une autobiographie qui soit neuve, qui ressemble pas à beaucoup d'autres très grandes, même plus grandes, déjà écrites. Et lui s'y prend d'une façon qui lui ressemble, le connaissant avec son côté conceptuel, des idées souvent assez radicales. Il décide de faire un autoportrait absolument éclaté, c'est-à-dire qu'il... Le texte est une longue suite de 100 pages, une longue suite de constats qu'il fait pour se décrire, de souvenirs qui lui reviennent, de scènes que tout d'un coup il revoit, d'habitudes qu'il note, de goûts qu'il confesse, de dégoûts aussi qu'il confesse. Et donc tout ça vient par petites touches, a priori pêle-mêle, mais en fait pas vraiment, parce que ça épouse aussi une sorte d'ordre qui est l'ordre du fil de ses pensées, l'ordre dans lequel les choses lui reviennent, et ça compose petit à petit quelque chose qui est tout sauf désordonné et aléatoire, qui est au contraire un autoportrait très tout en nuances, très fin, où on découvre une personnalité très très forte, un caractère voilà bien marqué, oui, et puis on commence à finalement savoir ce qu'il pense de la religion, de l'amour, de l'amitié, de la sexualité, de Dieu, enfin on et c'est très très c'est assez merveilleux d'humour, de non complaisance, voilà. Et je crois que Nathanaël et Sylvie nous en ont préparé une petite lecture, donc voilà. Alors, je les laisse nous faire découvrir là. Cet extrait.
Alors, petit extrait où il parle un petit peu de son enfance et ses origines. Ma grand-mère a été présentée à mon grand-père parce qu'ils aimaient tous les deux les courants d'air.
Un de mes oncles a répondu à une annonce d'un planteur sud-africain qui cherchait un exploitant pour ses oranges en ces termes.
Je ne connais rien à l'agriculture, mais je suis très intelligent.
Et il a été recruté.
En Afrique du Sud, une de mes tantes avait un boy qui s'appelait Coca-Cola et un autre Shell.
Avec un de mes cousins, nous jouions aux écureuils le matin dans un grand lit. Nous nous cachions sous les couvertures. Il disait
« A twino, twin, 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 twa, twin, 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 holdin »
et claqua la langue.
Dans la creuse, avec un de mes cousins, nous jouions au fermier et au petit veau. Le veau en slip se roulait dans une gadoue faite d'un trou d'eau dans la terre. Le fermier regardait en jouant vaguement avec un bâton. En général, il était le veau, j'étais le fermier.
En Corse, je jouais au gloops. En Normandie, je jouais aux Action Men. J'ai changé au moins une roue de voiture.
J'ai eu une R5 blanche, une Fiat Uno grise, une BMW W316 grise, une Volkswagen Polo Movie grise, un transporteur Volkswagen rouge.
Je roule à moto vêtue d'un épais blouson en cuir noir Vanson, même en été.
Je roule à vélo à Paris.
Je ne me déplace pas en roller skate.
J'ai un double menton.
Je ne porte pas de chaussettes noires avec un short.
Donc, voilà, vous voyez un petit peu, on passe de son enfance à tout d'un coup, son mode de locomotion, présent. Ses voitures, son présent, et ceci de manière en fait constante. Et transparaît parfois, Chantal l'évoquait très légèrement, quand même une petite tristesse, parce que cette enfance, il y a quand même des choses qui ressortent un petit peu douloureuses.
Dans le rapport à la mère.
Voilà. À un moment, elle dit, je ne suis pas battue, j'ai juste été enfermée dans une cave. Alors, peut-être qu'après, on surinvestit peut-être des petits détails comme ça.
Ouais. C'est la force, je trouve, de cette écriture qui procède par toutes petites touches. C'est que il s'appesantit jamais sur rien, puisque toutes les scènes sont racontées en une phrase. Et souvent, voilà, cette scène de l'enfermement dans une, on sait pas dans quel contexte elle intervient. On a juste cette petite vignette, et du coup, elle résonne beaucoup plus fort, comme ça, isolément. Elle suscite beaucoup d'interrogations, effectivement. Et ça, c'est un texte qui, pour ça, déclenche beaucoup de oui, on est très intrigué, très.
Puis en fait, il suit le fil de sa pensée avec le désordre que ça peut avoir. Et c'est vrai que quand on entend ce petit passage sur « il n'a pas été battu », on n'oublie pas non plus qu'à un autre endroit, il dit que sa mère l'appelait le bâton de merde. Alors, quand on dit qu'il y a la tristesse, et c'est vrai qu'il a la décence de ne pas s'apesantir sur les choses. Si bien que tout est supportable, que ce soit ces événements fort difficiles, je pense qu'il a dû traverser, et que ce soit, c'est sa succession de voitures, c'est assez amusant, d'autant que j'imagine qu'il peut aller un peu plus loin et dire que ces voitures-là, elles sont liées à telle copine qu'il avait rencontrée à ce moment-là, ou autre. On fonctionne tous de cette manière-là.
Oui, on imagine après tout.
Mais
ça.
Mais lui, il sait l'écrire en petites touches, comme de la peinture.
Ouais. Avec des choses un petit peu spéciales, enfin il lui arrive quand même des choses aussi extraordinaires, hein. À un dîner, une amie m'a embrassée, s'est déshabillée et tout a basculé pour la moitié des convives, parmi lesquels figuraient trois de mes anciennes amantes. Je crois que rien que la scène aurait pu donner lieu à un roman. Là, c'est vrai qu'il laisse le lecteur seul avec son imagination.
Et on imagine beaucoup de choses en même temps. Ça.
Oui. Tout est suggéré.
Est-ce que vous peut-être lisez dans un autre extrait ou je sais pas où.
Pourquoi pas. Alors, on va prendre quel passage ? À ma connaissance, je n'ai pas d'enfant. J'ai mis enceinte une femme, nous avons décidé qu'elle avorterait. Ce fut douloureux pour elle comme pour moi. Elle m'a affirmé que ça l'était plus pour elle, en me laissant entendre que je ne pouvais pas comprendre.
La première fois que j'ai fait l'amour avec une femme, c'était la première fois pour elle aussi, mais elle avait l'air de naturellement savoir.
En art contemporain, j'aurais tendance à aller vers les gens gentils. Le problème est que les gens gentils sont gentils avec tout le monde. Ils aiment tout, ce qui diminue la valeur de leurs avis.
Sur le boulevard Saint-Michel, j'ai croisé un homme plus grand que les autres. Sa tête qui dépassait ne ressemblait pas à un visage humain. Il avait quelques touffes de cheveux, deux trous à la place du nez, ni oreilles, ni lèvres. Des morceaux de dents émergeaient d'un gouffre en rictus. Son visage était de travers, sa peau brûlait sur toute la face. Seuls ses deux yeux avaient une forme normale, mais son regard était effaré. Comme si la foule qui croisait le regardait en se moquant de lui. C'était il y a 25 ans, je m'en souviens, comme si je venais de le croiser. Alors ça c'est un texte un petit peu plus dur. Je crois que Sylvain a un texte, un morceau qui est assez croustillant.
Alors je prends un peu avant pour
donc oui, resituer.
Un de mes camarades d'école à 12 ans a été suivi par un vieil homme jusque dans la cage d'escalier où il l'a entraîné dans une cave pour l'embrasser de force. Le chien d'un de mes amis a défiguré son meilleur ami lorsqu'il avait 14 ans. Je n'ai pas raté d'avion qui est explosé en vol. J'ai failli tuer les trois passagers qui m'accompagnaient en cherchant une cassette dans la boîte à gants alors que je roulais à 180 sur l'autoroute Paris-Reims. Mon père m'a surpris en train de faire l'amour avec une femme. Lorsqu'il a toqué à la porte, j'ai dit mécaniquement « Entrez !» Son visage s'est illuminé. Il a aussitôt refermé la porte. Lorsque l'ami a tenté de repartir discrètement, il s'est précipité vers elle et lui a dit « Revenez quand vous voudrez, mademoiselle. »
Oh,
bon, voilà, tout ça, c'est y en a 100 pages. Et c'est le texte se présente d'un bloc, comme ça. Donc, on peut presque l'ouvrir et prendre au hasard. Mais donc, voilà, c'est Autoportrait d'Edouard Levé.
C'est d'ailleurs un livre qu'on peut lire par petites touches.
Par petites touches, en fait. On peut
oui.
S'y replonger de partout à la fois. C'est aux éditions POL. Thank you.
ben maintenant, on prend la suite, alors.
On prend la suite avec un livre qui est écrit par une auteure sénégalaise qui est très connue au Sénégal. En France aussi, elle commence à être connue. Et c'est une auteure merveilleuse qui s'appelle Ken Bougoul. Ken Bougoul, c'est un pseudonyme. En Wolof, ça veut dire « personne n'en veut ». Ken, c'est personne, et Bougoul, ça veut dire personne. Voilà, ne veut pas vouloir. Donc et du coup, Ken Bougoul, c'est un nom en fait qu'on donne au Sénégal parfois à un enfant qu'au contraire on a beaucoup désiré, qu'on a infiniment attendu, qu'on a eu beaucoup de mal à avoir, et parfois dont les grands frères et sœurs sont morts. Et donc c'est l'enfant chéri au contraire. Dont on veut détourner le mauvais sort. Alors on dit, il y a aussi un nom pour l'appeler qui est, c'est le mot serpillière parfois, hein, le mot wolof pour dire serpillière ou pour dire un autre mot encore, c'est assez frappant, c'est graine de bouille. Le bouille, c'est un fruit, graine de bouille déjà sucée. C'est un prénom quand on voit ce prénom chez un enfant, on sait que c'est un enfant qui a été beaucoup attendu. Et donc en fait c'est évidemment tout le contraire, c'est un enfant. Qu'on voulait. Voilà. Et donc,
oui.
Voilà. Bref.
Donc, il faut vraiment, effectivement, éloigner le regard des mauvais esprits. C'est pour
c'est
ça qu'on
ça,
essaye
mystique.
De ouais. faire semblant qu'il n'est pas important. Voilà. Il l'est tellement qu'il faut surtout pas que quelqu'un s'en aperçoive.
Exactement. Et donc, voilà, elle a choisi ce beau pseudonyme. Et alors, le livre dont on va parler, s'appelle Riwan. Riwan ou Le chemin de sable. C'est son second livre. Le premier, c'est un livre autobiographique comme le premier. Le premier, c'était Le Baobab fou. Elle en a écrit d'autres hein, depuis, mais c'est voilà, là, on revient dans à ces deux premiers livres. Le Baobab fou, c'est un livre qu'elle écrit à la suite du séjour qu'elle part faire pour ses études en Belgique. C'était une étudiante, une élève très brillante, donc elle obtient une bourse au lycée français de Dakar, je sais plus. Et après, elle part donc faire ses études en Belgique. Et là, elle a une vie très très dissolue. Elle découvre elle a mille vies en quelques années avec beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, elle goûte à la drogue, elle essaie beaucoup de choses et ça ne lui réussit pas du tout. Le baobab fou, donc dont le titre dit bien cette expérience. Le baobab, c'est l'arbre sénégalais par excellence qui se désoriente complètement en fait, elle revient de Belgique absolument au bout du rouleau. Cette expérience d'une liberté qui n'en était pas une, en fait, ne lui a pas du tout réussi.
Puis elle est très désemparée de ça, parce qu'elle était vraiment partie faire des études en Europe. Vu de l'Afrique, c'est quand même pays des libertés, de la pensée philosophique et tout. Et elle s'aperçoit qu'elle se détruit.
Voilà, elle est partie dans une espèce de démarche d'auto-émancipation, enfin, en se disant, je vais aller... elle revient en profonde dépression. Et donc elle décide d'aller se ressourcer dans son village natal, en fait, donc reprendre au contraire contact avec de retrouver tous ses repères. Mmh. Et c'est là qu'en fait se passe le second livre, celui dont on va parler. Elle devient à ce moment-là la 28e épouse. Chose incroyable pour une femme qui a vécu la vie qu'elle a vécue avant. La 28e épouse d'un serine, c'est-à-dire d'un marabout, donc d'un grand chef religieux. Alors c'est un chef religieux de très haut vol avec qui elle a des grandes conversations, une grande complicité intellectuelle aussi. Mais ce qui est très beau dans ce livre, c'est ça me bouleverse à chaque fois. Elle raconte qu'en fait c'est là finalement qu'elle découvre que pour la première fois elle se sent heureuse, elle se sent libre. Elle se sent libre, exactement, et heureuse. Ce qui est assez fou, c'est que c'est avec ce vieil homme qu'elle dit finalement pour la première fois je suis heureuse aussi sensuellement, même sexuellement. Elle dit jusque là j'étais dans des constructions, je voulais être une autre personne, et là tout d'un coup je me découvre, je suis moi-même.
En fait elle faisait une course presque à la consommation de comment devenir la plus belle femme, la plus émancipée, la plus féminine. Et puis elle se retrouve en Afrique qu'elle avait quand même presque renié en partant en Europe. Elle pensait jamais remettre les pieds dans son village. Elle y revient presque par survie.
Oui,
et elle découvre d'abord ce rythme très, très, très différent des femmes, des hommes, des villages. Très, très rapidement, elle fait connaissance de ce chaman, on va dire, ou marabout plutôt, le sérigne. Ouais. Et cette amitié qui va évoluer vers l'amour, sans détruire la notion de l'amitié. Mais est très progressive, si bien qu'elle a l'occasion de rencontrer les 27 autres femmes, de partager des moments avec elles. Elles ne sont pas recluses, puisqu'elles sont heureuses dans leur situation, ou tout au moins le laissent penser. Même si pour certaines, ce n'est pas un choix, il n'y a pas de
voilà,
mystère.
Il faut quand même dire,
pour certaines, c'est les parents dès l'enfance qui ont promis cette jeune fille comme femme, nouvelle épouse, une de plus, pour le
au
marabout.
Grand chef religieux, ouais.
Donc il y a une déférence qui est là, qui est effectivement, qui nous est complètement étrangère. Nous, on a vraiment l'impression que c'est une brisure de personnalité tout de même.
Bien sûr, oui.
Et elle découvre que dans ce contexte, dans ces traditions, on peut y trouver une paix intérieure importante. Elle éprouve en plus le fait de se sentir progressivement amoureuse du Sérigne, mais de ne pas se sentir en rivalité réelle avec les autres. Elle découvre l'aberration de la jalousie qu'elle avait quand elle était en nouvelle relation, très exclusive. Et je trouve ce livre fascinant justement pour ses contradictions apparentes.
Absolument.
Parce que c'est des traditions qui sont tellement différentes, tellement opposées parfois, et elle arrive à en faire une synthèse en elle-même. Elle est arrivée complètement démolie, et elle continue d'abord, elle vit réellement avec lui jusqu'à sa mort, donc pendant 10 ans, de femme, une parmi 29, parce qu'en fait, elle est la 29e. La 28e, c'est une petite jeune qui épouse, qui a été promise, et qui épouse, elle a 16 ans. Et du coup, elle, ça lui provoque non pas de la jalousie, mais des doutes sur elle-même. Comment ce marabout va pouvoir m'aimer, me respecter, me désirer, qu'il y a cette petite gamine toute neuve là qui arrive et qui est en... Et vraiment, moi, je trouve sidérant cette harmonie qu'on sent, qui s'installe en elle, alors que oui, elle était arrivée absolument démolie.
Moi, effectivement, c'est un livre qui me fascine aussi pour tous ces paradoxes, tout ce que ça vient prendre à revers, en fait, toutes les idées reçues qu'on a qui sont bousculées dans ce livre sur ce qu'est la liberté, sur ce qu'est le bonheur, sur ce qu'est évidemment la réalité de la vie de ces femmes, de ces coépouses et de leur bonheur ou pas. Là-dessus le livre ne fait pas non plus un éloge, n'est pas un hymne il essaie de montrer la complexité de tout ça. Je pense que on en ressort. C'est pour ça qu'il y a le personnage de Rama, la petite jeune qui épouse le Sérigne et qui elle est toute jeune, elle a 16 ans, elle a pas vécu ce qu'a vécu la narratrice auparavant.
Oui, et puis elle est désignée.
Elle est désignée.
Elle n'a pas cette liberté de choix d'épouser.
Voilà.
Elle
et donc
est désignée,
elle est là dans le livre.
La tradition, elle ne s'y oppose pas.
Elle est là dans le livre, c'est sûr, pour aussi montrer à quel point la trajectoire de Ken Bougoul est exceptionnelle et rare quand même. Enfin voilà.
Oui.
Parce que une femme, parce que effectivement, c'est devenir. Devenir épouse du Sérigne à presque 40 ans, c'est peu courant. Et c'est beau de l'avoir comme une petite fille, aller à sa première nuit de noces avec le Sérigne,
très
tremblant de peur,
très
alors qu'elle a connu des dizaines d'autres hommes avant.
Et oui, puis très romantique en même temps. Et moi, ça me fait penser un petit peu au parcours d'Alexandra David-Nel dans le département, qui est sur Digne. Ce sont des femmes qui se permettent tout et en sortent extrêmement enrichies.
Voilà, ça c'est Riwan ou le chemin de sable de Ken Bougoul. Aladani sutrala, faceso sutrala. Alla dani simayala, fase so simayala. Ni ala isu sutura, isa ke sutura kono. Alla dani suturola, fase so suturola. Alla dani simayala.
Alors, notre émission touche à sa fin. Je voudrais tout d'abord remercier Sylvain de cette belle rencontre.
C'est moi qui vous remercie.
Et vous donner de prochains rendez-vous. Donc, le prochain comité de lecture aura lieu le mardi, alors, comme d'habitude, le troisième mardi de chaque mois. Donc, le mardi 20 janvier à la médiathèque de Manosque. Il n'y aura pas de thème, on parlera de tous les livres qu'on a aimés, qu'on n'a pas aimés même, mais malgré tout, il y a eu une polémique avec le livre d'Éric Reinhart qui s'appelle « L'amour et les forêts ». Donc, on a pensé que ça serait bien si quelques personnes pouvaient le lire en plus pour étoffer cette polémique, pour avoir un petit échange autour de ce livre. Au mois de février, donc le troisième mardi du mois de février, nous parlerons de l'œuvre de Patrick Modiano, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 2014. Donc, ça sera l'occasion de retracer un petit peu son œuvre, son parcours. Et il y a matière à beaucoup parler sur Patrick Modiano. Et pour la suite, on en parlera plus tard. Au mois de mars, il y a le printemps des poètes, donc on fera un comité de lecture spécial insurrection poétique, parce que c'est le thème du printemps des poètes. Et le reste, on en parlera plus tard, parce que c'est dans 3 mois, donc on aura le temps. Voilà, on vous remercie, on souhaite à tous nos éditeurs de bonnes fêtes de fin d'année.
Au revoir.
Et merci Emeline.
Merci et bonnes fêtes, on se retrouve en 2015.
Eh oui.